Le message qui va suivre vous est présenté par l'Église, la maison du bâtisseur. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, sois sur chacun d'entre eux. Que le fruit de leurs entrailles soit béni. Amen. Que le fruit de leur travail soit béni. Amen. Que le fruit de leurs mains soit béni. Amen. Que les fruits de leurs projets soient bénis. Amen. Que toutes les entreprises qui naîtront de ces couples soient bénies. Amen. Que leur ministère soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin soit sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la prospérité, Seigneur, divine sur leur foyer, sur leurs finances et sur tout ce qui leur appartient, Seigneur, ô Dieu, soit béni au nom de Jésus-Christ. Que tout plan satanique mis en place par le royaume des ténèbres pour détruire leur mariage soit corrompu. Nous appelons la disgrâce sur tous les démons qui ont été envoyés pour détruire leur mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te consacrons tous les couples mariés, Seigneur, qui se sont levés. Père de grâce, tu dis dans ta parole, soyez féconds. Seigneur, ils ont choisi de faire ce pas de foi et de se marier devant toi. Certains ont eu même des enfants au nom de Jésus. Maintenant qu'ils passent à l'étape où ils se multiplient, qu'il y ait d'autres couples mariés qui naissent de leur couple au nom de Jésus-Christ. Que des jeunes, Seigneur, ô Dieu, qui les côtoient se marient au nom puissant de Jésus. Qu'ils se multiplient, Seigneur. Qu'ils se multiplient, Père de grâce. Qu'ils remplissent, qu'ils assujettissent et qu'ils arrivent, Seigneur, au but pour lequel le mariage a été créé pour Adam, la domination, qu'ils dominent au travers de leur couple. Et que cette parole de l'évangile écrite dans Matthieu, chapitre 18, au verset 18, que lorsque deux personnes s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur est accordé, que cette parole soit activée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète en tant que berger de cette église que tous les couples mariés, Seigneur, ô Dieu, seront la rosée, Seigneur, sur cette église au nom de Jésus-Christ. Ils se multiplient jusqu'à l'extrême. Ils sont bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Nous menaçons celui qui détruit les mariages dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous consacrons les maris, Père de grâce, qui souvent sont tentés et attaqués par les esprits de séduction de toutes sortes. Qu'ils soient consacrés, qu'ils soient toujours trouvés fidèles, qu'ils soient toujours trouvés attachés à leur femme, au nom de Jésus-Christ, à la femme de leur jeunesse, au nom de Jésus-Christ. Et que toute forme de péché et de tentation à l'immoralité sexuelle soit stoppée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande toutes les épouses, qu'elles soient ces aides véritables auprès de leur mari. Ce pourquoi elles ont été appelées, Seigneur. Que ces épouses, Seigneur, donnent la main d'association à leurs époux pour les propulser dans leur ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Que les épouses de cette église rayonnent, qu'elles resplendissent, Seigneur, comme l'étoile brillante du matin auprès de leur époux au nom puissant de Jésus-Christ. Que la sagesse qui accompagne l'épouse de Christ soit leur sagesse. Qu'elle soit douce, agréable, exempte, pleine de volupté au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur soient sur toutes les épouses de cette église au nom de Jésus-Christ. Et que toute forme de tentation satanique, Seigneur, qui viendrait vers elle comme celle qui est venue vers Ève, Seigneur, n'ait point raison d'elle, mais qu'elle, Seigneur, puisse exercer le mandat qui leur a été donné d'écraser la tête du serpent dans leur foyer au nom puissant de Jésus. Nous scellons ces paroles dans le sang de Jésus-Christ. Que ces paroles courent et agissent avec rapidité et qu'elles ne reviennent point à nous sans avoir atteint le but pour lequel elles ont été prononcées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur bien fort. Ramakata rebroste kata yaba. Alléluia. Et nous allons faire une dernière prière que le Seigneur m'a demandé de faire. C'est pour tous ceux qui étaient mariés et qui ont connu un divorce. Tous ceux qui ont été mariés et qui sont divorcés aujourd'hui et qui veulent se remarier. Tous ceux-mêmes qui ont été mariés et la personne a été rappelée par le Seigneur. Que ce soit les divorcés, les veufs, tous ceux qui sont retrouvés seuls pour une quelconque raison et qui aspirent aussi à se marier. Je vous demande à vous aussi de vous tenir debout. Nous allons, Église de Christ, prier pour eux et nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Et nous allons demander au Seigneur que cette faveur, cette bénédiction soit réactivée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent trouver un autre partenaire qui les aidera à cheminer jusque vers leur destinée. Que le Seigneur également console et pense toutes les blessures qui ont pu être faites dans leur cœur et dans leur âme suite à cette expérience. Que l'expérience ait été bonne ou mauvaise, peu importe, que ces personnes soient totalement consolées, restaurées et que le Seigneur les équipe une nouvelle fois, les prépare une nouvelle fois au nom de Jésus-Christ. Mais tu vas faire une prière bien particulière pour ces personnes qui ont décidé de se consacrer au Seigneur. Nous allons décréter au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit se répande sur eux et que leur virginité soit à nouveau établie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient consacrés à nouveau et que leur virginité reprenne place comme s'ils étaient saints et comme s'ils n'avaient jamais couché avec quelqu'un. Et qu'ils soient consacrés à leur époux que le Seigneur a préparé à nouveau pour eux au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut élever sa voix pour tous les divorcés, tous les veufs et toutes les personnes qui aspirent à se remarier et qui étaient mariées au nom de Jésus-Christ? Je te consacre les personnes qui se sont levées, Père. Ces personnes qui ont expérimenté le mariage dans le passé et pour une quelconque raison aujourd'hui ne sont plus mariées, quelles que soient les épreuves qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, Père, tu les restaures. Quelles que soient les épreuves qu'ils ont rencontrées, Seigneur, tu les restaures totalement. Tu consoles et tu penses toutes les blessures qui ont pu être faites dans leur âme et dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Nous établissons à nouveau leur virginité et nous les consacrons à leur nouvel époux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le divorce soit brisé dans ta maison et que ces personnes soient consacrées à nouveau à leur époux, à leur épouse, au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction du mariage soit leur partage, au nom de Jésus. Que la bénédiction du mariage soit leur faveur, au nom de Jésus. Nous réactivons cette bénédiction dans leur vie. Nous réactivons cette grâce dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils se remarient, au nom de Jésus. Et que la faveur du mariage et de la gloire divine de l'époux et de l'épouse soit leur partage. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont connu le divorce, la séparation ou un décès. Au nom de Jésus-Christ, Père, tu les consoles, tu les restaures, tu les guéris, tu les équipes et tu les prépares à nouveau à connaître cette grâce, cette faveur du mariage au nom puissant de Jésus. Nous scellons ces paroles dans le sang de l'agneau. Elles courent et agissent avec rapidité. Elles ne reviennent point à nous sans avoir atteint le but pour lequel nous les avons prononcées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yakata. Est-ce que l'Église peut se lever et acclamer le Seigneur bien fort? acclamer bien fort. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie devant le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, béni soit ton saint nom. Merci encore pour ces magnifiques moments. Merci encore pour ta présence. Certainement, tu es au contrôle de toutes choses. Merci pour l'inspiration de ta parole. Amène-nous encore de gloire en gloire dans la révélation de ta parole. Parle à ton peuple, que je disparaisse et que toi seul paraisse. Que je me taise et que toi seul parle. Que l'Esprit parle à l'Église aujourd'hui de manière prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, tu peux t'asseoir. Et en t'asseyant, je voudrais que tu dises à au moins deux personnes, vraiment la SEG.
Monsieur Ngabolo, avant de sortir du bureau, je t'ai dit quoi? Ouais. Il sortait de mon bureau, il avait l'air paniqué parce qu'il n'y avait pas le courant. Je l'ai regardé, j'ai dit, avant le début du message, le courant va revenir. Et le courant est revenu. Il fallait que d'abord que l'on fasse cette prière pour ces quatre prières-là. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais que tu prennes avec moi ta Bible. Ah. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose de très particulier avec vous. Et juste avant d'entrer, de lire le verset du jour, je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour ces jours de séminaire sur le mystère du mariage que nous avons eu. C'était juste magnifique par la grâce de Dieu. Je ne vous cache pas que même moi-même, j'ai été impressionné par le niveau de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je n'avais même pas prévu de dire. Amen. Et parfois, je peux t'assurer que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est au contrôle. Dieu ne fait pas cas des apparences. Dieu, quand il veut parler, il parle. Et je suis quelqu'un qui m'instruit énormément en ce qui concerne la parole. Je lis énormément la Bible. J'écoute beaucoup de messages de grands serviteurs de Dieu. Mais je peux vous assurer que en ce qui concerne le mariage, il n'y a pas beaucoup d'enseignements qui existent comme celui que vous avez reçu ici. C'est moi qui vous dis, hein. C'est vrai. C'est pour cela que je bénis le Seigneur pour la révélation de la parole. Amen. Vraiment. Amen. Et pendant ces trois jours aujourd'hui, nous en sommes à notre quatrième et nous allons atterrir, puisque c'est un culte assez particulier aujourd'hui, nous allons atterrir sur ce séminaire et, concernant le mariage. Et mais ça va être un peu particulier puisque ça va être aussi la suite logique de la série sur laquelle nous sommes en ce qui concerne remporter le combat de la chair pour la manifestation des fils de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour sa parole. Amen. Hier, je vous ai dit que je n'allais pas du tout enseigner, mais j'allais plutôt vous raconter une histoire. Ok? Et hier, le Saint-Esprit m'a dit, raconte-leur mon histoire. Raconte-leur l'histoire de moi et de mon épouse. D'accord? Et c'est l'histoire que j'ai commencé à raconter hier. Et c'est l'histoire que je vais terminer aujourd'hui. Alléluia. Livre de Apocalypse, au chapitre 12. Alors avant de rentrer, on va lire un tout petit peu. Juste histoire de nous remettre un peu dans le contexte. Apocalypse, chapitre 12, au verset 13. Je ne vais pas relire tout le chapitre comme on l'a fait hier. Je vais juste relire la fin du chapitre où il est écrit, au verset 13 à 18, « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen. Maintenant, ouvre avec moi le chapitre 14, un peu plus loin. Le chapitre 14 au verset 9, où il est écrit, du verset 9 à 12, « Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête, dis avec moi ceux qui adorent la bête, et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Alléluia. Tu prends ensuite avec moi Apocalypse, un peu plus loin, au chapitre 17. Au chapitre 17, à partir du verset 1 à 6, il est écrit « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, dis avec moi, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. » Dis avec moi l'impudicité. « Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme, » dis avec moi une femme, « assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande. » Dis avec moi, Babylone la Grande. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Va plus loin au verset 18, où il est écrit au verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Alléluia. Je m'arrête là, parce qu'on va encore lire deux autres versets, juste pour nous situer dans le contexte. Hier, j'ai commencé à vous raconter l'histoire de la femme à la couronne de 12 étoiles. Qui est cette femme? Dans le premier passage que nous avons lu, dans Apocalypse chapitre 12, il nous est présenté une femme qui donna naissance à un enfant mâle. Cet enfant, la Bible dit, Apocalypse chapitre 12, que cet enfant a été récupéré par Dieu. Et quand l'enfant a été préservé par Dieu, la Bible nous dit qu'un autre signe, parce que l'apparition de la femme, Jean commence le chapitre 12 en disant « Et je vis un grand signe dans le ciel. » Le grand signe dans le ciel, c'est une femme qui apparaît et qui donne naissance à un enfant. Et il dit « Je vis un autre grand signe dans le ciel. » Et cet autre grand signe dans le ciel, c'était un dragon qui en voulait à la femme et à son enfant. Dieu a protégé l'enfant et le dragon s'est mis à poursuivre la femme. Donc on assiste durant le chapitre 12, la première moitié du chapitre 12 d'Apocalypse, on assiste à un dragon qui est en train de poursuivre une femme. Et la Bible dit que cette femme s'échappe. Et cette femme, quand elle s'échappe, pour la protéger, les anges, Michael et ses anges, se sont levés et commencèrent à combattre. La Bible dit qu'ils combattirent. Ils combattirent Satan et ses anges à cause de la femme qu'il fallait protéger. Alléluia. Et la Bible nous dit que Michael et ses anges vont remporter le combat. Ils vont remporter le combat. Et quand ils vont remporter le combat, Satan va être précipité sur la terre. Là, un ange va venir et va se mettre à crier « Gloire à Dieu parce qu'il a remporté la victoire, etc. » Et l'ange termine sa parole en disant « Mais malheur à la terre !» Parce que Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Malheur à la terre parce que Satan vient vers les habitants de la terre avec une grande colère. Alléluia. Et là, le chapitre 12 continue en disant que une fois que Satan a été précipité du ciel vers la terre, il a continué à persécuter la femme. Sauf que là, la femme se met à s'enfuir et la Bible nous dit que le dragon, quand il était en train de la poursuivre, Dieu va donner des ailes d'aigle à la femme. Elle va s'envoler. Et quand elle va s'envoler, le dragon, voyant qu'il ne pouvait pas atteindre la femme, il va ouvrir sa bouche et il va cracher un fleuve d'eau. Dites-moi l'eau. Il va cracher un fleuve d'eau pour pouvoir atteindre la femme. L'eau qui est crachée par le dragon symbolise simplement la parole de Satan ou encore des paroles de séduction pour séduire la femme. Mais la Bible dit que Dieu intervint pour secourir la femme et la terre s'ouvrit et la terre engloutit le fleuve d'eau. Et quand la terre engloutit le fleuve d'eau, elle engloutit également la femme avec. Et la femme alla se cacher à un lieu qui lui était préparé. À partir de là, cette femme disparaît du livre de l'Apocalypse. D'Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, on ne parle que d'une seule personne, l'agneau. Jésus-Christ apparaît à chapitre 5, il vient, il prend le livre de vie, « Dignes-tu, agneau de Dieu ?» Et ensuite, il débloque les sept sceaux. Les sept sceaux sont des jugements qui arrivent sur la terre, etc., etc. Le genre de verset que tu n'aimes pas lire parce que c'est juste incompréhensible. Et après, au chapitre 12 apparaît maintenant cette femme-là et cette scène avec le dragon. Et après, quand la femme disparaît, on ne la voit plus jusqu'à un certain temps dans le livre de l'Apocalypse où elle réapparaît. Et quand elle disparut, la Bible nous dit, et c'est le verset que nous avons lu tout à l'heure, que le diable fut irrité. Et quand il fut irrité, puisqu'il a été précipité du ciel et qu'il est maintenant sur la terre, vu qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait plus tuer la femme, il alla faire la guerre à la postérité de la femme. La postérité de la femme, l'auteur précise que ce sont ceux qui gardent le témoignage de Jésus, les saints. Alléluia. Je suis ici pour te raconter une belle histoire. Amen. Et après cela, à partir du chapitre 12, il va se passer quelque chose d'assez particulier. C'est que le diable est sur la terre. Dis avec moi, le diable est sur la terre. Le diable est sur la terre. Et la Bible nous dit à la fin du chapitre 12 qu'il va faire la guerre aux saints. Et là, le chapitre 12 termine par ce verset-là. Et il se tint sur le sable de la mer. Dites-moi, la mer. Le mystère de Tyr, n'est-ce pas? Il se tint sur la mer. Et en se tenant sur la mer, le diable est un esprit, le diable est un ange. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le chapitre 13 va s'ouvrir. Et quand le chapitre 13 s'ouvre, eh bien, on commence à assister au règne de Satan. Sauf que là, ce n'est pas Satan qui règne propre, de manière propre sur la terre. Là, il y a un autre personnage qui entre en scène dans le chapitre 13. Ce personnage s'appelle la bête. la première bête. Et qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que cette bête qui apparaît dans Apocalypse chapitre 13, il est écrit dans Apocalypse chapitre 13 que Satan va prendre son autorité, sa puissance et tout son pouvoir et il va le donner à la bête. Et il va donner une instruction à cette bête. Fais la guerre aux saints. Donc, cette bête qui apparaît dans Apocalypse chapitre 13 reçoit une autorité. Cette autorité et ce pouvoir pour faire la guerre aux saints. Et l'auteur précise, vous pourrez aller lire chapitre 13, on a beaucoup détaillé hier là-dessus, donc je ne vais pas l'afficher au tableau, au mur. L'auteur précise que cette bête reçoit l'autorité de Satan et le pouvoir de vaincre les saints. Donc les saints ne peuvent pas vaincre la première bête. Les saints ne peuvent pas la vaincre. Ok? Et après, dans Apocalypse chapitre 14, la Bible nous présente une autre bête. Sauf que cette fois, il est écrit au début du chapitre 14 d'Apocalypse que cette deuxième bête a la capacité d'animer, c'est le mot que la Bible utilise, animer l'image de la première bête. Il y a plusieurs choses au sujet de la deuxième bête. L'Apocalypse chapitre 14 dit que 1. Elle a le pouvoir d'animer la première bête. Donc quand on te dit animer la première bête, c'est comme si la première bête était quelque chose qui était sans vie. Ok? Il a la possibilité d'animer la première bête et il va ordonner, la deuxième bête là, il va ordonner à tous les habitants de la terre d'adorer la première bête. Alléluia. Et il est écrit dans Apocalypse chapitre 14 que la deuxième bête va ordonner de tuer tous les habitants de la terre qui n'adoreront pas la première bête. Et tous ceux qui accepteront d'adorer la première bête seront marqués sur la main droite ou sur le front du nombre de Satan 666. Dis avec moi 666. Adorer la première bête. Et l'ange apparaît au verset 9 de chapitre 14. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre éternel devant les saints anges et devant l'agneau. Ceux qui adorent, il dit plus loin, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et il termine sa parole, l'ange, en disant, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui caractérise ces saints? C'est qu'ils persévèrent dans leur marche pour ne pas adorer la bête. Alléluia. Et je vous ai démontré hier qu'en fait, la première bête qui reçoit l'autorité et toute la puissance du diable, ce n'est pas une personne, c'est un système. Un système dans lequel on vit tous les jours. Ce système qu'on appelle le système de la bête est marqué et caractérisé par une chose. Par une chose. L'impudicité. Dis avec moi l'impudicité. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? C'est la fornication. C'est coucher à tout va, à gauche, à droite, avec des gens qui ne sont pas ton époux ou ton épouse. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que les saints à qui Satan a déclaré la guerre vivent dans le système de la bête. Et la Bible te précise dans chapitre 14, 15 et 16 qu'il y a deux types de catégories, deux types de saints. Il y a les saints qui vont persévérer dans la foi pour ne pas adorer le système de la bête. Il y en a d'autres qui vont persévérer dans la foi, mais malheureusement pour eux, vont être tués. Et parmi eux, la Bible nous révèle 144 000, on ne sait pas pourquoi. Et il y a une troisième catégorie de saints, eux, ils vont renoncer à Jésus et adorer la bête et accepter de se faire marquer. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas prendre avec moi ta Bible. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Non, d'abord, excuse-moi, reviens. Apocalypse, chapitre 17. Ouais, je pense que c'est mieux. Pour que tu puisses bien suivre le fil de l'histoire, il vaut mieux que tu lises d'abord Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse chapitre 17 au verset 1. On l'a lu tout à l'heure ou pas? On l'a lu tout à l'heure, hein, donc c'est moi. Donc va bien dans Hébreux, excuse-moi. Va dans Hébreux, on l'a lu tout à l'heure. La mère des impudiques, la grande prostituée. Si on l'a lu, c'est bon. Ok, donc va déjà dans Hébreux chapitre 12. Donc, cette bête, le système de la bête est caractérisé par une chose, l'impudicité. L'auteur nous dit ici que tous les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et il dit, c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Enivrés, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont baignés dedans. Ils ne savent même plus qu'ils sont des vrais zombies, enivrés du système. Le système est caractérisé par l'immoralité sexuelle et l'impudicité. Et parmi les habitants de la terre qui sont enivrés de la sexualité, il y a aussi les saints. Parmi les chrétiens qui vivent avec nous ici, qui viennent avec toi à l'église tous les jours, il y a des gens qui commettent l'impudicité et l'immoralité sexuelle. Il y a des chrétiens qui sont mariés avec leur épouse depuis un certain temps et qui vont coucher dehors avec des femmes et commettre l'adultère. C'est l'impudicité. Alléluia. Et là, ce qui est bizarre, c'est que dans Apocalypse chapitre 17, l'auteur nous fait relever que là, il voit un autre personnage qui aussi a l'aspect d'une femme. Et cette femme, il dit, elle tenait dans sa main une coupe remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques. Ça veut dire qu'elle est à la source même de l'impudicité. Cette femme est ivre du sang des saints. Cette femme qui nous est présentée ici, ce n'est pas un personnage. Cette femme, c'est un système. Cette femme, c'est la bête. C'est juste, l'auteur a juste donné un autre nom à ce système. La première fois, il le présente comme une bête. La deuxième fois, il va plus loin. Et il précise que c'est une femme appelée la grande prostituée. Et il va encore plus loin en donnant son nom, la grande Babylone. Et ce qui caractérise cette femme, non seulement c'est qu'elle est la mère des impudiques, elle est à l'origine même de l'immoralité sexuelle, mais ce qui est grave, c'est que cette femme est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Ivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle boit leur sang tous les jours. Et là, Jean écrit, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Oh, pourquoi il est étonné? Il n'est pas étonné parce que cette femme est ivre du sang des païens. Il est étonné parce que cette femme est ivre du sang des chrétiens. Donc cette femme boit le sang des chrétiens. Mais quel type de chrétiens? Des chrétiens qui commettent l'impudicité. Alléluia. Donc l'impudicité est ce qui caractérise cette femme. Cette femme, c'est un système. Et le système dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce système s'appelle Babylone la Grande. Vous, quand vous lisez Apocalypse, vous pensez que cette histoire de Babylone la Grande, c'est une histoire qui est encore très lointaine et qui viendra quand Jésus-Christ reviendra, etc. On est en plein dedans. Babylone la grande, c'est le monde qui est là dehors. Où vous entendez parler d'homosexualité, de sodomie, de choses abominables, où les gens couchent à tout va, les gens vivent en concubinage à tout va, les jeunes dès l'âge de 12 ans couchent à tout va, la masturbation, la prostitution, etc. Toutes ces choses-là, c'est ça la grande Babylone. C'est un système qui est assis sur l'impudicité. Et pourquoi cette femme est ivre du sang des témoins de Jésus? Parce que parmi les enfants de Dieu, il y en a qui adorent la mère des impudiques et qui commettent aussi l'impudicité. Alléluia. Va dans Hébreux maintenant, chapitre 12. Au verset 14, il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification. Dites moi la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, vous allez remarquer une chose très importante, c'est que Paul insiste beaucoup sur la sanctification. Il dit même dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, fuyez l'impudicité. Si un homme commet un péché qui est en dehors de son corps, ok. Mais si un homme commet un péché sexuel, il pêche contre son propre corps. C'est grave. Il n'y a rien de pire. Et le sexe, dis-moi le sexe. Le sexe est ce que Satan a compris. Pourquoi? Parce que s'il y a bien quelque chose auquel l'homme ne peut pas résister, c'est la tentation sexuelle. L'homme ne peut pas résister à la tentation sexuelle et le diable le sait. C'est pour cela qu'il n'existe pas d'autre solution devant la tentation sexuelle si ce n'est de fuir. Alléluia. Hébreux chapitre 13 au verset 4, et tu vas te comprendre à la fin du message pourquoi j'en suis arrivé à ce... On arrive à ce passage-là. Parce que dans Hébreux chapitre 12 au verset 14, il dit « Recherchez la sanctification en toutes choses. » Et puis là, si tu lis bien ta Bible, à partir du 12-14, Paul commence à faire toute une démonstration de différents... plusieurs recommandations concernant la sanctification. Faites ceci, faites cela, fuyez la cupidité, etc. Ne faites pas ci, ne faites pas ça, etc. Et il termine sa démonstration par Hébreux 13, 4. Que le mariage, dites-moi le mariage, soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dites-moi le sexe. Le sexe a été créé par Dieu pour une raison. La raison pour laquelle Dieu crée le sexe, c'est pour pouvoir permettre à l'être humain qu'il a créé d'expérimenter quelque chose que lui seul possède. C'est quelque chose que lui seul possède et qu'il ne partage avec personne, c'est sa gloire. La gloire de Dieu, nous pouvons l'expérimenter. L'être humain peut expérimenter la gloire de Dieu. Et l'être humain expérimente la gloire de Dieu dans sa chair chaque fois qu'il éprouve le plaisir sexuel extrême. Communément, on appelle ça avoir un orgasme. Chez les femmes et chez les hommes, on appelle ça trois petits points. C'est quelque chose d'unique dans la vie d'une personne. Mais Dieu ne permet pas que l'on expérimente, que l'on fasse cette expérience-là n'importe comment. Dieu crée une plateforme où deux personnes pourront s'unir et expérimenter ça en toute intimité, pureté, sainteté et légalité devant sa face. Cette plateforme s'appelle le mariage. Et Satan sait ça aussi. Et chacun d'entre nous, nous avons reçu quelque chose en nous. Et quand nous expérimentons ce semblant de gloire là, au travers d'une relation sexuelle, nous arrivons à faire ce que Dieu fait quand il est avec nous, c'est-à-dire communiquer ce que nous avons de meilleur à celui qui nous fait du bien. Alléluia. Et c'est à ça que sert le mariage. Le mariage est aussi cette plateforme-là qui a été créée par Dieu pour symboliser la relation entre Jésus-Christ et son épouse. Le mariage, ce n'est pas quand on va au restaurant. Le mariage, ce n'est pas quand tu cours après une femme, etc. Le mariage, ce n'est même pas quand tu fais ta confession de foi, que je te jure fidélité, etc., devant le maire ou devant le pasteur. Le mariage est scellé lors des noces. Quand monsieur et madame se retrouvent seuls dans leur lit après le mariage et commettent l'acte sexuel pour la première fois ensemble. Alléluia. Et c'est un plaisir que Dieu a réservé uniquement pour les mariés. Toute personne qui accomplit l'acte sexuel en dehors de la plateforme du mariage participe au système de la bête. Tu me suis? Si tu me suis fait comme ça. L'adoration de la grande prostituée. L'esprit du monde est caractérisé par la débauche et l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. L'esprit du monde, c'est le système qui est construit sur l'impudicité et mis en place par Satan pour détruire les saints, la postérité de la femme à la couronne de 12 étoiles. Adorer la bête, c'est embrasser son esprit. Et son esprit, c'est l'impudicité. Quelqu'un me dira, pasteur, jusqu'ici je ne comprenais pas ce que ça veut dire adorer la bête. Maintenant tu comprends. Toute personne qui commet l'acte sexuel hors mariage adore la bête. Toute personne qui est saint, qui a donné sa vie à Jésus, ou même qui ne connaît pas Jésus, et qui dit, moi, cette histoire de la parole de Dieu où il faut se consacrer, et où il ne faut pas coucher, etc. Laisse-moi ça. Je couche si je veux coucher. Pour X ou Y raison. Cette personne, quand elle fait ça, elle accepte d'adorer la bête et d'être marquée. Le mensonge de l'ennemi, c'est de nous faire croire que l'histoire du marquage là, ou de la puce dans la main droite là, c'est quelque chose obligatoirement qui sera physique, qu'on devra voir de nos yeux. Bien aimé, on est en plein dedans. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont assis dans l'église et ne savent même pas qu'ils sont déjà marqués du 666. Ils ne le savent même pas. Beaucoup vous êtes là et vous avez déjà été marqués. Et quand vous commettez l'impudicité, vous venez à l'église, vous adorez le Seigneur, vous demandez pardon pour certains. Pendant ce temps, la grande prostituée, elle est en train de se rire. Elle dit, regarde-moi cela. Ils m'aiment. Pourquoi ils m'aiment? Parce qu'ils font ce que je leur demande de faire. Ils commettent l'impudicité. Ils ne veulent pas se marier pour pouvoir être légal devant Dieu. Ils trouvent toutes sortes de raisons pour discuter la parole de Dieu, pour contredire la parole de Dieu, pour résister au commandement de Dieu, refusent de se marier, par contre ils couchent. Ils acceptent d'être marqués du 666, ils sont marqués. C'est pour cela qu'il est simple de leur dire, vous irez en enfer, car iront en enfer ceux qui seront marqués de la bête, du signe de la bête. La grande Babylone. Dis avec moi la grande Babylone. Celui qui commet l'impudicité, celui qui adore la grande prostituée et participe à son règne. Dis avec moi l'adoration de la grande prostituée. Donc chaque fois qu'un témoin de Jésus tombe dans l'impudicité, le ciel est dans un grand étonnement. Pourquoi ça étonne les anges? Parce que les anges disent, mais voilà quelqu'un qui a déjà lu la Bible. Il connaît la Bible.
il va à l'église et il va commettre l'impudicité. Les anges disent, yi. Parce que les anges, il n'y a pas mieux pour craindre le Seigneur. Eux, ils craignent l'Éternel. Hein. Ils savent, eux, ils ont déjà vu Dieu à l'œuvre. Ils ont déjà assisté à deux jugements, comment Dieu a balayé la terre. Ils disent, mais les gars là, les êtres humains là, les deux leçons là sont là, on peut suffire. Hein. Et il continue. Sauf que là, Dieu a dit, quand il a fait le deuxième déluge, il a dit à Noé, je me repens du mal que j'ai fait aux êtres humains et plus jamais je ne ferai ça. Par contre, je réserve la géhenne. Donc, je leur laisse le choix maintenant. La vie, ce sont des choix qu'on fait. Si tu fais le choix de ne pas te marier et d'avoir des relations sexuelles, soi-disant tu ne résistes pas, c'est dur, pasteur, tout ça là, ce ne sont que des raisons et des excuses que tu donnes. On est en plein dans Babylone. Il y a des gens qui tellement ont soif de pouvoir et de position sociale, entrent dans des sectes, des réseaux ésotériques, entrent dans toutes sortes de choses, la franc-maçonnerie, plein de choses, ils rentrent dedans. Ils ont tellement soif et convoitent tellement de choses qu'au bout d'un moment, même si on leur a déjà proposé de l'argent et toutes sortes de choses, il y a toujours un moment où on leur dit, pour sceller ton choix là, couche. Parce que le sexe vient sceller une alliance et ton engagement dans la chair. C'est-à-dire, le fait que tu es couché là, tu ne peux pas oublier que tu t'étais engagé. Parce que c'est entré dans ta chair. Alléluia. C'est ça, adorer la bête, adorer la grande prostituée. Donc le sexe est l'instrument suprême utilisé par la grande prostituée pour faire tomber les saints. C'est l'arme la plus puissante du diable pour détruire les saints et voler la gloire qui est en eux. Les saints sont des transporteurs d'un trésor. Ce trésor, c'est l'esprit de gloire qui est en eux. Et quand un saint va commettre l'impudicité, ça, quand le Saint-Esprit m'a montré ça, dis avec moi le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a trois parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, le grand sacrificateur ne rentrait là-bas qu'une seule fois dans l'année, au Yom Kippour des Juifs. Il rentrait là-bas une seule fois. Et quand il rentrait là-bas, il devait adorer, juste adorer. Et quand il entrait là-bas, avant d'entrer, on l'attachait avec une corde qui allait derrière. Et les autres sacrificateurs étaient déjà prêts à le tirer. Au cas où le gars, on se rendait compte qu'il était en train de mourir. Parce que quand il était exposé à la gloire pouvait le tuer. Et il ne pouvait pas s'amuser de rentrer là-bas avec le péché. Il ne pouvait pas. Il se préparait pendant des mois. Il se sanctifiait. Parce que devant la gloire, c'est soit tu meurs, soit tu es couché en train d'adorer. Alléluia. C'est pour ça que quand Salomon a inauguré le temple, les sacrificateurs étaient obligés de sortir. Ils ont dit, papa, le niveau là, on est obligé de sortir. Il y en a qui sont là à l'église, quand on arrive à un niveau intense d'adoration, ils se lèvent, ils sortent. Ils disent, ça là, je ne peux pas rester ici. C'est trop fort pour moi. Et quand l'homme et la femme mariés sont en train de coucher, il y a différents niveaux dans la relation sexuelle. Il y a des fois où ils vont coucher, ça va durer 5 minutes. C'était juste un petit plaisir, ça a duré 5 minutes. Ils ne sont pas allés très loin dans le tabernacle. Il y a des fois où ça va prendre un peu plus de temps et le plaisir va être plus fort. Ils sont rentrés dans le lieu saint. Mais la fois où vraiment c'est fort, papa, c'est quand ils entrent dans le lieu très saint. Et quand ils entrent dans le lieu très saint, l'homme, dis avec moi l'homme. L'homme est celui qui symbolise le grand sacrificateur. Il entre dans le lieu très saint où il y a l'arche de l'alliance et les chérubins. Et il vient déposer sa semence sur l'arche. C'est-à-dire il dépose sa vie sur l'arche. Sur le lieu de la gloire. Et quand il dépose ça, c'est une offrande qu'il fait au Seigneur. La femme représente le Saint des Saints. C'est elle qui est la gardienne de l'arche. C'est elle qui est la gardienne de la gloire. C'est pour ça que la femme est, est spéciale. Et quand l'homme entre et qu'il vient déposer sa semence, sa vie sur l'arche, c'est comme une offrande qui monte au Seigneur. Et quand le Seigneur approuve, il libère, il bénit. Et cette bénédiction parfois peut se matérialiser par un enfant. C'est pour cela que la relation sexuelle entre l'époux et l'épouse, c'est trop important, c'est trop crucial. Et quand un époux sort volontairement de la relation qu'il a, de l'alliance qu'il a avec son épouse, et va coucher dehors, il commet l'abomination dehors, l'immoralité sexuelle, il revient souillé dans sa maison, et il revient coucher avec sa femme. C'est comme si c'était Satan en personne qui rentrait dans le temple de l'Éternel et qui venait souiller le Saint des Saints. Et quand s'il fait ça, Dieu dit, il n'y a pas pire péché que l'adultère. C'est pour cela que quelqu'un qui commet l'adultère, vaut mieux qu'il demande pardon à Dieu. Vaut mieux. Parce qu'il a commis un acte vraiment abominable. Mais heureusement, Dieu pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Chaque enfant de Dieu possède en lui ce trésor. Et les femmes, leur trésor à eux, ce sont les gardiennes de la gloire. C'est pour cela que, question sexe là, Satan en veut plus à la femme. Parce qu'elle est le temple. L'homme, il est le sacrificateur. L'homme peut facilement changer de femme. Si une femme ne lui plaît plus, il va dire, je divorce, je m'en vais. Et puis facilement, il va se remettre avec une autre femme. Parce que lui, son plaisir se limite beaucoup au physique d'abord. Mais la femme, quand elle a été avec un homme, c'est difficile pour elle de retourner avec un autre homme. Parce que ce temple-là qu'elle est, elle a du mal parce qu'elle avait consacré un sacrificateur pour ce temple-là. Et pour pouvoir trouver un autre sacrificateur qui va être digne d'entrer dans le Saint des Saints, vaut mieux qu'elle prenne son temps. Elle est le temple. Elle transporte la gloire. C'est pas n'importe qui la femme. Elle transporte la gloire. Vous pensez que Jésus-Christ s'entourait de femmes, pourquoi? Parce qu'il connaissait ses mystères. Il savait que ces femmes-là, elles étaient spéciales. Alléluia. Regarde ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, au verset 7. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Dis avec moi, j'ai une puissance en moi. Ouais. Et Satan, ou encore la grande prostituée, Babylone la grande, ils connaissent ces mystères-là. C'est pour cela que la grande prostituée, elle n'en a rien à faire des païens. Le païen, ce sont des esprits morts. C'est leur garde-manger. Mais quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle création. Son esprit est revenu à la vie. Et la Bible nous dit qu'il a été régénéré. Et il est redevenu à l'image de Dieu. L'esprit de gloire est maintenant avec lui. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17. Celui qui est en communion avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est-à-dire quand le diable voit ça, il voit la gloire. Et quand il voit un saint, il dit, ça là, je veux ça. Et quand il veut ça, il sait qu'un saint qui se sanctifie, il ne peut pas le toucher. Voilà pourquoi tous les grands péchés dans la Bible sont toujours liés au sexe. Parce que Satan sait que si j'amène le saint à tomber dans le péché sexuel, quand il va libérer la semence là, il va libérer la gloire. Et c'est là que je peux prendre tout ce qu'il y a de meilleur en lui. C'est pour cela que quand Abimélec vient voir Balaam. Abimelech connaît ça. Abimelech était un envoyé de Satan. Il voit Jacob, Israël. Et il voit que le peuple se sanctifie. Il voit qu'il ne peut rien faire. Il est obligé d'appeler Balaam pour dire, prophétise le malheur sur eux. Balaam veut prophétiser. Il dit, je ne peux pas prophétiser. Le peuple est béni. Il retourne voir Dieu 2 fois, 3 fois. Et après, il revient. Et la doctrine de Balaam, c'est quoi? La doctrine de Balaam, c'était de s'infiltrer parmi le peuple et d'amener les fils d'Israël à coucher n'importe comment. Et quand ça s'est arrivé, le diable est entré et a frappé Jacob. D'ailleurs, ce n'est même pas le diable qui a frappé directement Jacob, c'est Dieu lui-même qui a frappé Jacob. Parce que quand le péché sexuel devient trop grand, Dieu ne peut plus résister parce qu'il est saint. Il est obligé de juger. Pareil avec Sodome et Gomorre qui commettait l'acte sexuel à un niveau tellement intense que Dieu lui-même a été obligé de descendre pour dire « Je finis avec une fois. » Le péché sexuel. Dieu ne blague pas avec ça. Je t'ai dit qu'à la fin de ce culte-là, tu vas prendre la décision de te sanctifier. Dis avec moi la persévérance des saints. Donc les saints, ce sont ceux à qui Satan a signé l'Indien. Il a juré qu'il va faire la guerre à l'église. Il a juré qu'il va s'infiltrer dans l'église pour voler la gloire. Et les démons, quand ils entrent dans une église, tout le monde n'a pas le même niveau de gloire. Plus tu es mature spirituellement, plus tu es proche de Dieu et plus tu resplendis de gloire. Plus ta vie entre dans la révélation de la personne de Christ, plus tu resplendis. Et quand les démons voient ça, ils voient une lumière qui brille. Si tu es encore bébé spirituel, ta lumière ne brille pas beaucoup. Mais quand tu as grandi, c'est pour ça que les esprits des mères, quand ils viennent, souvent, ils vont toujours viser l'autel, les hommes de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, c'est celui qui a atteint un niveau dans la connaissance de Dieu très élevé. Et la gloire en lui a beaucoup grandi. Mais comme il est mature et il a la connaissance, tu ne peux pas l'avoir n'importe comment. Donc Satan va utiliser la séduction pour le faire tomber. Et le ciel fut dans un grand étonnement. Dis avec moi la persévérance des saints. Les saints ont reçu une seule instruction de la part de Dieu, le temps qu'ils sont là sur la terre. Résistez, tenez ferme, persévérez dans la foi en qui, en Jésus-Christ, persévérez. La persévérance des saints est de rester dans la grande Babylone et de ne pas se souiller jusqu'à leur retour à la maison. Parce qu'un enfant de Dieu, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'un jour, il va repartir au ciel. Et il faut qu'il aille en s'étant sanctifié. Donc la vie sur la terre est une vie de consécration à notre seul époux Jésus-Christ. Donc, il sait que la sanctification est ce qui est prioritaire pour lui. Parce qu'il sait que s'il viole la loi de la sanctification, Satan entre dans sa vie et peut le tuer. Le saint, c'est celui qui est mature spirituellement et qui sait que nous sommes en guerre avec Satan et que nous sommes dans un système, la grande Babylone, et il ne peut pas tomber dans l'impudicité. Tout sauf l'impudicité. Il ne peut pas. Parce que quand l'impudicité entre, toutes les murailles tombent et tu es exposé. S'il y a bien un péché qui fait honte quand tu es exposé, c'est le péché sexuel. On a vu des grands hommes politiques qui avaient accompli des exploits, mais qui sont tombés avec des femmes. Et c'était gravissime. Des chefs d'État, etc. Comment un chef d'État qui a changé toute une nation juste parce qu'il a couché avec une secrétaire, c'est tout ce qu'on retient dans son CV. Pourquoi? Parce que le péché sexuel, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie d'une personne. Alléluia. Regarde ce qui est écrit dans Apocalypse 13:10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Il a encore dit, Apocalypse chapitre 14 au verset 12, c'est ici la persévérance des saints. qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dis avec moi, garder les commandements de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que ceux qui gardent mes commandements, ce sont ceux qui m'aiment. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est parce qu'il répète dans Jean, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les vrais saints, ceux qui sont vraiment en Jésus-Christ, ils gardent les commandements de Jésus. Ils ne se laissent pas séduire par la grande prostituée. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils savent qu'ils sont là pour un temps, pour accomplir leur destinée, accomplir ce que le Seigneur a prévu pour eux, et après ils s'en vont, tout en laissant un héritage à leurs enfants derrière. Mais ils ne se laissent pas corrompre par le système. Ils sont prêts à tout perdre, mais jamais ils vont perdre leur dignité en Jésus-Christ. Jamais. Alléluia. Si tu es avec moi, fais comme ça. La persévérance des saints. Les saints qui persévèrent dans la foi ne cèdent pas à l'impudicité. Ils savent que le système, c'est celui de la bête. Et le système en question a été créé pour séduire les habitants de la terre. Pourquoi il a été créé? Parce que Satan n'a qu'un seul objectif. C'est amener tout le monde à la perdition éternelle. C'est le seul objectif du diable. Il veut emmener le maximum. Beaucoup de gens ne sont pas éclairés spirituellement et passent leur temps à raisonner, à discuter les commandements de Dieu. Et c'est ce qu'il y a de pire. Commettre le péché sexuel et pense que Dieu comprend, que Dieu va pardonner. C'est le temps de la grâce. Tu joues, hein? Joue pas. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ne joue pas avec le péché sexuel. Les femmes, parce que vous êtes conscientes que vous êtes le temple de Dieu qui transporte le Saint des Saints, ne permettez jamais qu'une femme dise avec moi, jamais, qu'un homme entre alors qu'il n'est pas le sacrificateur avec qui vous avez tissé une alliance pour le mariage. Amen. Jamais. Ne permettez jamais ça. Si vous avez déjà commis cette erreur au passé, prenez l'engagement devant le Seigneur. Seigneur, je ferme les portes. Aujourd'hui, c'est fini. Personne ne rentre. Je me consacre au Seigneur. Et celui qui rentrera, ce sera mon époux. Et personne d'autre. Et les hommes, parce que vous savez que vous aussi, vous transportez la vie. Et que ce que vous transmettez est précieux. Prenez l'engagement de ne pas le déposer n'importe où. Votre semence, c'est la vie. Il n'y a rien de pire pour un homme. En sortant de l'école ou du boulot, il a été tenté sexuellement par une petite. Il va y coucher avec elle, pensant que ce qu'il avait fait était tout à fait normal. Il s'en veut un petit peu s'il est chrétien. Et après, il dit, j'oublie. Et quelques jours plus tard, ou quelques mois plus tard, la jeune femme revient en disant, je suis enceinte d'un enfant de toi. En général, ça ne lui procure pas beaucoup de joie. Pourtant, cette nouvelle est censée procurer de la joie à un homme. Mais ça ne lui procure pas de la joie. Il voit ça plus comme une erreur et un poids et un fardeau. Et s'il est inspiré de la grande prostituée, il va encourager la jeune femme à aller avorter. Ça, c'est encore une abomination. Et s'il décide de garder l'enfant, il va le garder malgré lui. Mais il y aura toujours un coin dans son cœur où il va dire, c'était une erreur. Et il va devoir prendre sur lui pour pouvoir aimer malgré tout l'enfant. Pourtant, ce n'était pas un enfant désiré. Mais gloire à Dieu pour les enfants non désirés. Parce que même pour un enfant non désiré, Dieu a des plans. Parce que Dieu, dans sa grâce, tient compte des erreurs des êtres humains pour pouvoir accomplir ses plans à lui. Ouais. Alléluia. La persévérance des saints. Les saints sont conscients qu'ils ne peuvent pas vaincre le système de la bête. Seul Jésus-Christ peut vaincre le système. Nous, on ne peut pas. Le système est trop puissant. Tu ne peux pas vaincre ce système qui est bâti sur le sexe. Tu ne peux pas. Tu dois juste attacher la ceinture et tenir ferme jusqu'à la fin de ta vie. Tant que tu seras sur cette terre-là, tu seras tenté tout le temps. Mais tu devras jurer fidélité à ton épouse et à ton époux. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de vaincre le monde. Il a dit, en ce qui vous concerne, vous, une seule chose vous permet de vaincre le monde, votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la foi, vous avez vaincu le monde. Eh bien, par la foi, vous avez tenu ferme. C'est ça que ça veut dire. Mais vaincre le monde physiquement. Jésus-Christ dit, ça c'est moi. C'est moi qui viendra. Et la Bible dit qu'avec sa bouche, comme un feu qui sort de sa bouche, il pètera les nations et il détruira le système de la bête. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 16 au verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des tentations sexuelles, des propositions indécentes de secrétaires, toutes sortes de choses dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la bête. Mais cette victoire viendra être matérialisée à mon retour. En attendant, prenez soin de vous, tenez ferme et sanctifiez-vous. Alléluia. Donc la marche avec Christ est un combat spirituel permanent. Et la force des saints est de ne pas tomber dans l'impudicité de la grande prostituée, de se sanctifier. Dis avec moi la force des saints. La force des saints face à l'impudicité, face à la séduction de l'impudicité de la grande prostituée, c'est de se sanctifier. Et Paul insiste énormément là-dessus. Les chrétiens de l'époque ne comprenaient pas pourquoi Paul insistait autant. Parce que Paul avait reçu le mystère en question. Il est écrit dans la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, dites-moi ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu connais Dieu, tu es en Christ. Mais va pas faire ce qu'un païen fait. Le païen encore s'est justifié, il ne connaît pas Dieu. Toi, tu connais le Seigneur. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est notre appel. Le dragon a décidé, irrité, de faire la guerre à la postérité de la femme, au sein. Mais leur force face au combat, c'est la sanctification. Quand il vient, Pierre dit, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche, il tourne autour de la maison. Il sait qu'il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit a barricadé ta vie. Et ta vie est cachée en Christ, dit Colossiens. Mais quand tu ouvres la porte au péché sexuel, il entre là. Et là, il peut te détruire. C'est comme ça que viennent des maladies comme le sida, des maladies sexuellement transmissibles, toutes sortes de choses que la grande prostituée a créées pour détruire les saints. C'est pour ça que quand un enfant de Dieu a commis le péché sexuel, attrape le sida et vient prier pour qu'on le guérisse, c'est dur pour que le miracle se produise. C'est dur. C'est dur. Moi, je me rappellerai en 2012, quand j'étais rentré de Paris avec mon épouse, j'étais allé rendre visite à un ancien frère en Christ qui habitait quelque part dans Libreville. Et là, quand j'arrive chez lui, je trouve son petit frère qui est assis sur la terrasse. Mais il avait une mine bizarre. Le petit avait que 17 ans. Et je lui dis, oh, mais ton petit frère a quoi? Il dit, mon frère, il a le sida. Il a le sida. Et le petit avait accepté de faire la prière du salut, tout ça. Il venait quand il pouvait à l'église, tout ça. Mais bon, sa vie n'était pas affermie en Christ. Il est parti l'accoucher, il a attrapé le sida. 3 jours après que je sois passé là-bas, il m'appelle pour me dire que mon petit frère est mort. Ça m'avait touché. Et j'avais dit, voilà comment une vie à 17 ans est réduite à néant. Parce qu'il est juste allé coucher avec une copine à l'école qui avait le sida.
le péché sexuel, on ne blague pas avec. C'est l'arme la plus redoutable que Satan a trouvée pour faire tomber les saints. Ah, regarde ce qui est encore écrit dans 2 Corinthiens 6, au verset 17. Je suis en train de t'emmener quelque part. C'est pourquoi il dit, sortez, dis avec moi, sortez. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Dites avec moi, purifions-nous. De toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit encore dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous avez été élus par la sanctification. Élus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, l'Évangile vous a touché. Et vous avez fait le choix de vous consacrer à Jésus-Christ. Et vous avez été sélectionné, élu par la préscience de Dieu. Parce qu'à l'avance, il savait qu'un jour, toi, tu viendrais à Jésus-Christ. Il attendait juste avec hâte que tu prennes cette décision un jour. Et le jour où tu as pris cette décision, il y a eu la fête au ciel. Parce que tu as été totalement lavé. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, là, tu es vêtu d'un vêtement noir. Les anges viennent, ils enlèvent le vêtement noir qui représente la souillure. Et ils te mettent un vêtement blanc. Et te disent maintenant, c'est bon, consacre-toi, sanctifie-toi. Et ne va plus te souiller. Car tu es destiné à entrer au ciel. La sanctification. Donc, la force déjà, c'est l'impudicité. C'est de ne pas tomber dans l'impudicité. Vous l'avez compris, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, ce que le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, fils, tu as compris? J'ai dit, oui, j'ai compris, papa. Maintenant, ce que je vais te dire, je tiens à ce que tu le leur fasses bien comprendre. Car c'est une parole qui a été donnée de manière prophétique par Paul. Mais l'Église se trompe et pense qu'elle n'est pas concernée par cette parole. Et écoute bien ce que je vais te montrer là. C'est très important. Dis avec moi l'abomination de la fin des temps. Là, maintenant, on rentre dans le prophétique. On est déjà dans le prophétique depuis. Mais là, ce que je vais te dire là, avant de conclure mon message, parce que quand on conclut, c'est la cerise sur le gâteau. Mais avant de conclure le message, le Saint-Esprit voulait que l'Église soit claire avec ça. N'oubliez jamais ce que je vais vous montrer là. Parce que ça, c'est Dieu lui-même qui donne. Alléluia. Prends avec moi ta Bible dans 1 Thessalonicien, non 2 Thessaloniciens, même si c'est écrit au mur, et tu mets une marque ou bien tu écris sur ton cahier pour aller mettre le surligneur dessus. Il est écrit ceci, très important. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3 à 14. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, dis avec moi l'apostasie, soit arrivée auparavant. Rappelle-toi que Paul est en train d'écrire ces paroles il y a des centaines d'années. Il est en train de parler des temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. L'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Dis avec moi l'homme du péché. Le fils de la perdition. Dis avec moi le fils de la perdition. L'adversaire. Dis avec moi l'adversaire. Qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Dis avec moi, s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité, dis avec moi le mystère de l'iniquité.
agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie. Dis avec moi l'impie. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Au verset suivant, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici un passage que tu lis souvent, que tu ne comprends pas. Parce que tout simplement, comme les chrétiens ne sont pas suffisamment bien instruits en ce qui concerne l'eschatologie, eh bien, beaucoup de chrétiens, la grande majorité des chrétiens, pensent que ici, on est en train de parler du diable. Ou encore de l'antéchrist qui reviendra. Dis avec moi l'apostasie. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? L'apostasie, c'est l'absence de foi. Ce sont des gens qui, malgré tout ce qu'ils entendent, ne croient plus trop en Dieu. D'accord? Il dit, il faut d'abord que l'apostasie arrive. Quand l'apostasie arrivera, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes aujourd'hui dans un temps où beaucoup d'enfants de Dieu ne croient plus comme il faut croire. Ils ne croient plus. Aller à l'église, ça ne leur dit plus rien. Parce qu'on ne croit même plus en cette histoire d'église-là. Pourtant, l'église primitive, les Pierre, Paul, Jacques, tout ça. Pour eux, l'église, c'était... Ils se retrouvaient dans les maisons. Il y avait le feu. Ils priaient. Mais quand on dit veille de prière, tu ne viens pas. Quand on dit culte, tu ne viens pas. Quand on dit il faut lire la Bible, tu ne la lis pas. Etc. Tu ne crois plus. Tu es dans l'apostasie. Il faut d'abord que l'apostasie vienne. Quand l'apostasie, il dit, sera arrivée, paraîtra l'homme du péché. Dites-moi l'homme du péché. L'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. L'adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est différent de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui se cache. Il est même assis avec toi, se faisant passer pour ton ami. Et il te poignarde dans le dos. L'adversaire, c'est celui qui confronte en face comme ça Dieu. Il dit, ta parole là, je n'obéis pas. J'obéis pas. Je fais ce que je veux. Et il dit, cet homme-là, l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Dis avec moi, s'asseoir dans le temple de Dieu. Toi, tu penses ici qu'il s'agit du diable. Il ne s'agit pas du diable. Il s'agit de celui qui, malgré le fait qu'il entende la parole de Dieu, dit « Je refuse d'obéir. » Mais chaque dimanche, il vient s'asseoir dans le temple de Dieu. Disant quoi? Dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même maître de sa vie. Et Paul l'appelle plus loin l'impie. Et il appelle ça le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est celui qui volontairement, connaissant la parole de Dieu, va commettre l'impudicité. C'est pour ça que Paul dit mystère. Parce que tout simplement, malgré le fait qu'il connaisse, on ne comprend pas que, connaissant le jugement, il va quand même commettre. C'est un peu comme celui qui sait qu'il ne faut pas fumer, et puis il fume quand même. Il sait qu'il ne faut pas voler, mais il vole quand même. Paul dit mystère de l'iniquité. Et l'iniquité, c'est commettre le péché volontairement. Je suis là, je suis à la maison, on n'est pas marié, on vit en concubinage. On sait que ce n'est pas bon de coucher ensemble, mais tous les soirs, quand on se retrouve dans la chambre, on couche ensemble. Et puis quand on dit culte dimanche, nous voilà venus au culte, et on ose s'asseoir dans le temple de Dieu, devant l'homme de Dieu qui prêche avec l'onction. Tu es là assis, et tu dis amen, alors que dans la semaine, tu as couché. Paul dit impie. Impie vient de piété, celui qui est contraire à la piété. Et Paul dit, c'est lui l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire de Dieu en personne. Tu me suis maintenant? On ne parle pas du diable ici. On parle des saints qui sont assis dans le temple de Dieu physiquement, en face de l'autel où le Saint-Esprit se déverse. C'est comme ça que les fils de Aaron, le sacrificateur, Abiathar et son frère, sont rentrés dans le temple de l'Éternel avec un feu étranger. Et la Bible dit que le feu de Dieu les a consumés sur place. Et beaucoup vous entrez, vous vous asseyez là. Et vous ne savez pas que quand le pasteur parle, ce sont des feux qui sortent de sa bouche. Et ça vient droit sur toi. Parce que tu rentres dans le temple de Dieu avec un feu étranger. Tu es dans le péché et tu viens t'asseoir dans le temple de Dieu. Tu me suis? Alors paraîtra l'impie. Et là, Dieu dit, Jésus-Christ lui-même en personne le détruira. Jésus-Christ lui-même en personne le détruira. Et il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est quoi la puissance de Satan? La puissance de Satan, c'est celle qu'il a donnée à la grande prostituée, à la bête. La capacité à séduire et à faire croire aux gens qu'en fait, tout va bien. Tout va bien. Ils vont croire à des miracles, à des signes, des prodiges mensongers de toutes sortes. Toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils sont là assis dans le temple de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils viennent juste dire amen, 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 alléluia. On connaît le Seigneur, mais quand ils vont dehors, ils commettent toutes sortes de mauvaises choses. Les pasteurs, pareil, les femmes, les hommes, tout le monde. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi dans votre pays, le Gabon, vous êtes en état de crise, crime rituel élevé, toutes sortes, des abominations sont commises, etc. Parce que la gloire est sortie de l'église. La gloire est partie. Et quand la gloire part, l'abomination s'assoit maintenant. Et l'abomination, ce sont des enfants qu'on trouve avec des organes coupés partout dans, les, dans la ville, tout ça. C'est tout ça. Et tout ça, ça s'est venu dans notre pays parce que la gloire est partie. Mais il est temps de ramener la gloire. Et pour que les saints ramènent la gloire, il faut la sanctification. Amen. Parce qu'il dit seulement qu'au travers de l'évangile, vous êtes appelés à posséder cette gloire. C'est votre appel. C'est votre appel. Sanctifiez-vous. Et il dit que l'impie, il est assis. Il est là dans l'église, à côté de toi. Il y amène, mais il est dans le péché. Quand le pasteur parle, mariez-vous, ils sont là, ils trouvent toutes sortes de raisons bidons pour ne pas se marier et osent entrer dans le temple et aller déposer la semence sur l'arche, dans le Saint des Saints. Des agents du diable. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils encouragent le règne de la grande prostituée. Et comment voulez-vous que le système change? Comment voulez-vous que nos prières soient exaucées? On ne peut pas être exaucé si le péché est assis. C'est pour ça qu'on peut prêcher tous les plus beaux messages. On a connu des temps magnifiques de l'église au Gabon où il y a eu des réveils puissants. Et après, vous avez entendu que les hommes de Dieu se sont souillés, etc. La gloire est partie. La gloire est partie. Et ces hommes de Dieu, aujourd'hui, font toutes sortes d'efforts, organisent des événements parce qu'ils veulent revenir sur le devant de la scène. Dieu dit, vous êtes rayés. Parce que ce que vous avez fait, vous avez souillé le temple de l'Éternel. Dis avec moi l'abomination de la fin des temps. Et pourquoi on dit abomination? On parle de péché quand c'est un païen qui commet la chose. Mais on parle d'abomination quand c'est un sanctifié qui vient faire la chose. Là, c'est wow! Et Dieu représente Satan comme celui qui connaît parfaitement Dieu, se déguise en ange de lumière, vient au milieu des autres anges et s'assoit devant Dieu. Et ça, ça s'appelle un saint. Il est là, assis, déguisé en ange de lumière, avec tout le langage spirituel. Amen, alléluia, béni soit le Seigneur. Mais il entre dans le temple, il s'assoit, il vient même devant l'autel sans peur, hein, il dépose l'offrande. Et il retourne s'asseoir, et il rigole, il acclame. Mais il est dans le péché. Dieu dit Satan en personne, l'impie de la fin des temps, abomination. Alléluia. Amen.
Amen.
Si tu es avec moi, fais comme ça.
Yes.
Allez, je vais atterrir. Et Dieu a réservé la gloire. Il a réservé la gloire pour une personne, la femme, l'épouse. C'est elle. C'est autour d'elle que toute la parole de Dieu tourne. C'est elle qui est allée à l'insu de son mari, qui a conversé avec le serpent et qui a pris le fruit. C'est elle qui a été jugée après le serpent. Mais Dieu lui a quand même donné un mandat d'écraser la tête du serpent. C'est elle qui porte la vie. C'est elle qui transporte la gloire. C'est elle qui est la porte d'entrée dans le monde. Personne ne peut entrer dans le monde. Même le Christ lui-même a dû passer par une femme pour entrer dans le monde. Et quand on organise un mariage, les hommes, si ça ne tenait qu'à nous, on ferait même ça à la maison. Mais la femme, tout le mariage tourne autour d'elle. Parce qu'en fait, le mariage, c'est pour célébrer la femme. C'est elle. C'est elle l'épouse. Et quand Dieu crée le mariage, il crée le mariage pour elle. Il crée le mariage pour que, au travers du mariage, elle puisse expérimenter un temps soit peu dans sa vie et dans sa chair, cette relation-là que Jésus-Christ a avec l'Église. Le mari n'est que le gardien. Il n'est que le souverain sacrificateur. Même si lui aussi, il peut expérimenter la dimension de l'épouse dans sa foi. Mais Paul dit dans Éphésiens 5, 22 que le mari est celui qui doit prendre soin de sa femme afin de la faire paraître devant lui. Mais en fait, il est en train de symboliser ce que Jésus-Christ fait. Donc son rôle, c'est de veiller à ce que cette épouse soit resplendissante. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que nous les hommes, on ne peut pas comprendre, c'est quand l'épouse est dans l'attente de son époux. On ne peut pas comprendre ce sentiment-là. Quand l'homme n'est pas là et elle veut voir son homme. Nous les hommes, on peut partir en voyage, on peut partir des mois, notre femme ne nous manque pas un peu. Mais une femme, elle a hâte de voir son époux revenir à la maison. Toujours. Dis avec moi l'épouse. Et l'épouse, cette attente-là, c'est ce que la Bible appelle l'espérance. Et c'est cette espérance de l'épouse-là que l'on est censé vivre dans le mariage. Dis avec moi l'espérance de l'épouse. On va lire pour terminer. Dans Apocalypse 19, au verset 1, il est écrit « Après cela, j'entendis le ciel comme une voix, dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il désire une seconde fois, il dit une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Dis avec moi « Amen, Alléluia ».
Amen, Alléluia.
Et une voix sortie du trône, oui les chants, vous pouvez commencer à jouer. Et une voix sortie du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Les serviteurs ici dont on parle, ce sont les anges. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Là maintenant, ce texte est vraiment prophétique. Là, c'est une scène qui n'est pas encore arrivée. On est dans l'espérance maintenant. C'est une scène qui n'est pas encore arrivée. Et là, on célèbre qui? On célèbre l'agneau. Alléluia. Et juste après, au verset 7, maintenant entre en scène une autre personne. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Dis avec moi, les noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, dis avec moi, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Dis-moi, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. De quelle prophétie on parle ici? C'est la prophétie qu'il a donnée juste avant. Écrit, dis avec moi, écrit. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qui est appelé au festin des noces de l'agneau? Ce sont ceux qui ont les témoignages de Jésus. Ceux qui se sanctifient. C'est eux, en fait, l'épouse. Ils sont appelés à des noces pour sceller ce mariage-là. Et quand nous nous marions, nous sommes en train de symboliser ce qui est en train de se passer ici. C'est pour cela que les mariés doivent se sanctifier. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, vous prenez l'engagement de vous marier pour matérialiser ces prophéties dans votre vie. Amen. Écrit, car ceux qui ont les témoignages de Jésus, ceux qui se sanctifient, ce sont ceux qui ont l'esprit de la prophétie. Dis avec moi l'espérance de l'épouse. Et l'épouse, quand elle est dans l'attente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend que Jésus-Christ revienne. L'Église, nous les saints. Qu'est-ce qu'elle fait? Sachant que Jésus-Christ viendra bientôt et entrera dans son règne. Et la grande prostituée qui est là dehors, elle tombera. Et c'est pour cela que dans la Bible, Esther est une femme formidable. Parce que dans le livre d'Esther, chapitre 2, au verset 12, il est écrit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, dis avec moi, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Dis-moi pendant ce temps. Ici, ce que tu ne vois pas, c'est que pendant la préparation, il y a un certain nombre d'arsenal que les femmes utilisent, que l'épouse utilise pour se préparer. Le premier, il nous est dit que c'est les soins de toilette. Les soins de toilette symbolise simplement l'apparence de la sainteté, de la pureté et de la chasteté. Après, il nous a dit, elles utilisent de l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe symbolise une vie en communion avec la personne du Saint-Esprit. Et après, il nous a dit qu'elles utilisent des aromates et des parfums qui symbolisent une vie de prière et de profonde adoration pour donner un goût et un arôme unique dans notre relation avec l'époux. Alléluia! C'est ce qu'elle fait pendant qu'elle attend. Et quand elle attend, surviendra le moment. Et ce moment, nous pouvons l'expérimenter. Cette intimité de l'épouse, où nous sommes maintenant là avec l'époux. Je suis nu, il est nu, nous sommes nus. Et on s'unit dans une adoration profonde. Tout comme l'homme marié va s'unir avec sa femme le soir avant de dormir. Dans cette intimité s'appelle la véritable adoration qui permet d'expérimenter la gloire divine. Et l'épouse, la Bible nous dit qu'elle est appelée à vivre cette intimité-là. Et il est écrit dans Apocalypse, chapitre 19, au verset 11. Lis bien ce passage. « Puis je vis le ciel ouvert. »
Et voici parut un cheval blanc. Oh, Katarebru Kotayaba. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Laisse-moi te dire que quand tu es en train de t'unir avec ton époux, hein, quand tu es en train de faire l'amour à ton époux, quand tu es en train de faire l'amour à ton épouse, il y a des endroits bien spécifiques pendant l'événement que tu vois, que tu touches, que tu attrapes et que tu saisis dans une intense, dans une adoration intense. Tu me suis? La Bible dit, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que l'auteur est en train de nous dire ici? L'auteur est simplement en train de nous décrire l'époux. Il nous donne une description de l'époux que seule l'épouse peut voir pendant le temps d'intimité. Pendant que l'épouse est en train de faire l'amour avec son époux, elle le regarde dans les yeux. Et ce regard est un regard très profond. Pendant que l'épouse est en train de faire l'amour avec son époux, elle lui attrape la tête. Pendant que l'épouse est en train de faire l'amour avec son époux, elle crie son nom haut et fort à cause du bien qu'il lui fait. Et quand tu es dans cette profonde adoration, tu n'as qu'un seul mot à la bouche. Jésus, Jésus, tu pleures. Parce que pendant cette adoration profonde de l'intimité entre l'époux et l'épouse, elle se met toujours à pleurer quand c'est très fort. Pendant cette union avec son époux, de sa bouche, elle lui prend la bouche, elle l'embrasse. Et pendant qu'elle est dans cette intimité profonde avec son époux, il y a un endroit dans la vie que personne ne peut voir si ce n'est l'époux. C'est la cuisse. Personne ne peut voir ça. Parce que la cuisse est un endroit très, très intime chez un homme. Quand une femme met la main sur la cuisse d'un homme, ça réveille quelque chose chez lui. Alléluia. C'est pour cela que quand Abraham envoie son serviteur pour trouver une femme à son fils, il dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse et tu jures. Parce que là, tu as mis ta main, tu as touché mon intimité. Vous me suivez? Et quand il y a ce temps de communion intense, la véritable adoration, là, l'épouse ne dit plus que Jésus est mon Dieu. Elle ne dit plus que Jésus est mon ami. Elle ne dit plus que Jésus est mon maître ou mon Seigneur. Elle ne l'appelle plus comme ça. Il est écrit dans Osée chapitre 2, verset 16-17. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mon mari, c'est Jésus. Et parce que Jésus est mon mari, je lui ai juré fidélité, consécration, sanctification. Parce que l'église, tu dois te préparer pour les noces de l'agneau. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever et offrir une profonde adoration à l'époux, à l'agneau, pour les noces que l'épouse est appelée à espérer, à vivre? Qu'un véritable adorateur élève la voix. Le Seigneur a dit, ce que je demande, ce sont de vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Plus des personnes qui m'appellent mon ami, frère, maître, mais des personnes qui appellent Jésus, mon mari. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu dis Jésus, tu es mon mari Jésus, parce que tu es l'époux à qui je suis lié aujourd'hui. Je choisis de me sanctifier et de ne plus souiller le temple de la gloire. Je choisis de ne plus participer au règne de la grande prostituée, de ce système, parce que je fais partie de la famille des saints à qui le dragon a juré de faire la guerre. Mais ma force, c'est la sanctification.
Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, mon Seigneur.
Seigneur, tu n'es plus mon maître, tu n'es plus notre ami, tu n'es plus juste notre Dieu, tu n'es plus juste notre Seigneur, tu es bien plus que cela, tu es notre mari, Seigneur, et tu nous prépares pour les noces de l'agneau. Assurément, nous nous consacrons, nous nous mettons à part, Seigneur, pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien fort?
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphoner nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.